Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Jean-Philbert Mabaya Gizyamine, président du regroupement Arc-en-Ciel du Congo. Il est candidat à la présidentielle. Avec lui, nous allons analyser la publication le week-end dernier par la CENI des listes provisoires des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales. Nous aborderons aussi d'autres sujets d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Jean-Philbert Mabaya Gizyamine, président du regroupement Arc-en-Ciel du Congo. Vous êtes candidat à la présidentielle. Bonjour, comment vous allez?
Bonjour, je me porte bien, merci.
Vous le savez, le week-end dernier, la CENI a publié les listes provisoires des candidatures à la présidentielle et aux législatives. Sur 25 candidatures à la présidentielle, 19 ont été retenues et 6 jugées irrécevables, dont celles de Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mozito, Antoine Gizenga, Jean-Paul Moka, Sami Badibanga et Marie-Josée Ikofu. Quelle a été votre réaction après cette publication?
Après la publication, nous avons déjà réagi à deux reprises. Nous avons mis l'accent également sur ces problèmes d'invalidation de certains candidats. Nous nous sommes appesantis surtout sur les candidats de l'opposition, notamment la candidature de Jean-Pierre Bemba, la candidature de Mozito. Pour celle de Jean-Pierre Bemba, notre préoccupation a été que Jean-Pierre Bemba a été condamné à cause de la subornation des témoins, mais Jean-Pierre Bemba est parti en appel. Et jusqu'à présent, si nous avons une bonne information, la CPI ne s'est pas encore réunie pour répondre à cette demande de Jean-Pierre. Et normalement, jusqu'à présent, nous considérons que la condamnation de Jean-Pierre Bemba, jusqu'à présent, n'est pas irrévocable. Et l'article 10 de notre loi électorale dit que ne sont pas éligibles les gens qui ont subi une condamnation irrévocable. Ce n'est pas le cas de Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba. Pour Mozito également, nous nous sommes dit, M. Mozito a exhibé au niveau de la CENI tous les documents dans lesquels il déclare qu'en fait, il a été invalidé d'une façon illégale parce que les documents qu'il a présentés à la CENI attestent qu'il a bel et bien démissionné de son premier parti politique, à savoir le PALU, et qu'il a présenté sa candidature dans le cadre d'une autre formation politique. Et donc, logiquement, on ne peut pas avancer le motif qu'on a avancé pour son invalidation.
Concernant le sénateur Jean-Pierre Bemba, il y a très peu de temps, tout un débat a été lancé sur la subornation des témoins par certains juristes cadres de la majorité présidentielle. Pensez-vous que c'était déjà un mauvais présage?
Nous pensons que c'était un mauvais présage parce que cette question, cette réflexion devait être en fait centrée au niveau de la Cour constitutionnelle, institution habilitée à régler ce genre de problème. Mais nous avons été très étonnés de constater que déjà en amont, plusieurs juristes apparemment instrumentés ont essayé d'orienter la décision qui a été prise aujourd'hui. Et nous sommes très consternés par une telle décision.
Plusieurs de ses opposants, dont les candidatures ont été jugées irrécevables, crient à la manipulation de la CENI. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Mais nous allons surtout le constater à l'issue de tous les recours que ces candidats ont introduits au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons effectivement un instrument qui permet de régler les problèmes au niveau du pays. Nous nous attendons à ce que la Cour constitutionnelle puisse dire le droit de manière à ce que la confiance revienne finalement dans une de nos institutions importantes.
Les deux autres candidats, Marie-Josée Ikofu et Sami Badibanga, leurs dossiers ont été récalés pour des questions de nationalité. Comment vous expliquez que, par exemple, M. Sami Badibanga, qui a été Premier ministre dans ce pays, reconnu congolais, après, quand il n'est plus aux affaires, il se pose ce problème?
Comme tous les Congolais, tout cela nous étonne. C'est des arguments qui ne tiennent pas, à notre avis, parce qu'en plus de ce que vous venez de dire, il semblerait que notre ami Badibanga est également candidat député provincial, si j'ai bien suivi, ou député national, et que dans ce cadre-là, sa candidature aurait été retenue. Pour quelle raison est-ce qu'on estime qu'on doit faire deux poids, deux mesures?
Vous êtes pour une candidature commune de l'opposition. À ce stade, pensez-vous qu'il est encore possible d'arriver à cette fin? L'opposition n'a plus beaucoup de temps. Plusieurs analystes parlent aussi des égos surdimensionnés des différents candidats. Pensez-vous que ce serait possible d'y arriver?
Je pense que ce sur quoi nous devons absolument compter, c'est l'intérêt national. L'intérêt national au jour d'aujourd'hui, et notre population est absolument sûre qu'il faut absolument changer le système politique. Aujourd'hui, l'opposition doit être consciente de cet état de choses. La population souffre. Il y a une certaine frustration au sein de la population congolaise. Il est tout à fait normal qu'au niveau de l'opposition, nous puissions nous dire à un moment donné non. Je pense que pour arriver à cette fin, pour arriver à cette alternative, ou plus exactement à cette alternance, il faut absolument qu'au niveau de l'opposition, nous puissions prendre cette disposition d'une candidature unique, une candidature commune, de manière à ce que nous soyons plus ou moins sûrs que nous pourrons avoir les meilleures voix pour faire face aux candidats de la majorité présidentielle actuelle.
Quels sont les préalables selon vous? Parce que à suivre les discours, les différents opposants se donnent des coups de poing sous la ceinture par médias interposés. Quels sont les préalables?
Premier préalable, il faudra que nous soyons d'abord sûrs, je pense à la date du 19 qui est avancée, que ceux qui ont introduit leur recours nous reviennent et qu'ensemble nous puissions examiner la possibilité d'avoir une candidature commune. Et la candidature commune, nous ne l'avons pas arrêtée du jour au lendemain. Il faudrait que nous puissions nous connaître, que nous puissions nous parler, les yeux dans les yeux, pour relever ce que je suis en train de relever, l'intérêt national, l'intérêt de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est vraiment l'alternative qu'il faut dans notre pays. Et pour cela, moi, personnellement, je serai parmi ceux qui vont faire en sorte que nous arrivions à une candidature commune.
Il y a certains opposants qui, en son temps, ont proposé des primaires au sein de l'opposition. Adolphe Mouzito, sur RFI, cette semaine, parlait des différents projets de société, des différents programmes que les candidats devraient présenter, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il faut le dire.
Je pense que nous avons énormément de dispositions à prendre, compte tenu de toutes ces expériences malheureuses que nous sommes en train de vivre, pour faire mieux dans le futur. Mais aujourd'hui, à mon avis, il n'y a aucune loi qui prévoit les primaires. Par quel mécanisme? La question que je pose aussi, comment nous allons y arriver? Non, je pense que le seul élément qui nous guide, c'est cette conviction, cet engagement que nous avons pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Et cela, cet engagement devrait faire en sorte que nous puissions nous retrouver autour d'une table, obtenir un consensus de la part de tout le monde pour un candidat qui soit réellement un candidat, disons, commun, qui ait des qualités, qui puisse respecter les critères que nous allons arrêter avant de désigner ces candidats communs. Donc il y aura des critères, les critères pour la bonne gouvernance dans notre pays, pour que nous arrivions à refonder réellement la République démocratique du Congo sur le plan du droit, sur le plan de la bonne gouvernance. Et à ce moment-là, si ceci est compris, comme je le dis, par tout le monde, je pense que cela devient sérieux que nous puissions avoir absolument un candidat commun.
Radio Okapi. Grande interview.
Jean-Philbert Mabaya Guiziamine, président du regroupement Arc-en-Ciel du Congo, vous êtes candidat à la présidentielle. Croyez-vous en la crédibilité de ces élections?
Tant qu'il y aura cette fameuse machine, l'inquiétude aujourd'hui est dans toutes les têtes de Congolais. La crédibilité à ce moment-là posera problème. C'est pour cela que nous ne cessons de dire, étant donné que les élections constituent l'activité nationale qui demande un consensus au niveau de tous les acteurs politiques, il est tout à fait normal que cette machine qui est décriée par tout le monde, qu'on puisse l'écarter. Sinon, nous risquons d'avoir des problèmes après les élections. Parce que nous disons tout le temps que les élections ne constituent pas une fin en soi. Encore faut-il qu'après les élections, que nous ayons un climat serein et que ceux qui seront élus puissent avoir la possibilité de diriger le pays, que nous puissions mettre fin à ces discussions sur la politique et que nous regardions aujourd'hui l'économie de notre pays pour que la population puisse se retrouver dans ce bien-être que nous voulons pour toute notre population.
Vous venez d'évoquer la machine à voter, il n'y a pas encore de consensus autour de cette question. On est à 4 mois des élections. La CENI tient mordicus à utiliser cette machine. L'opposition n'en veut pas. N'allons-nous pas vers un blocage?
Non, je pense que si l'intérêt de tous est d'arriver à des élections apaisées, si tel est le cas pour tous, moi je suis persuadé qu'on doit absolument arriver à la fin. Alors, s'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas de consensus et qu'on tienne absolument à cette machine, cela signifie que, la volonté, l'engagement pour arriver à des solutions qui soient viables après les élections, cet engagement n'y est pas.
Et donc, par exemple, vous allez boycotter les élections?
Il n'est pas encore temps de le dire comme vous le dites, mais c'est des choses qui seront examinées. Mais on ne peut pas accepter, une machine qui, même sur le plan psychologique, tout le monde se dit que ce sera faussé après. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Sinon, autrement, après les élections, ça sera comme avant les élections. Il y aura toujours des problèmes. Et vous savez également qu'au niveau de notre programme, le programme arrêté par la CENI, il est prévu qu'au mois de septembre, nous puissions disposer de bulletins et que nous puissions également être sûrs de l'impression de ces bulletins. Donc, dans le programme, cela a été prévu. Donc, à mon avis, si on écarte les machines à voter, les bulletins étant prêts, tout le reste de la logistique étant prêt, mais les gens peuvent voter. Où est le problème? Ils peuvent aller voter à temps. Donc, nous pensons que les élections peuvent avoir lieu, mais encore faut-il qu'on ait la volonté politique de réaliser ces élections, et qu'on ait surtout à l'esprit que ces élections doivent avoir lieu pour que le pays se remette sur le rail et que nous puissions travailler pour l'économie de notre pays, il est grand temps.
Une autre question qui fait problème, c'est des millions de Congolais qui ont été enrôlés sans empreinte digitale. Il n'y a pas non plus de consensus. Quelle pourrait être l'issue selon vous?
Nous demandons que le fichier soit nettoyé. 10 millions d'électeurs dont nous ne sommes pas sûrs constituent une préoccupation pour la finalité de ces élections. Ça, c'est certain pour tout le monde. Alors, allons-nous accepter les 10 millions d'électeurs qui seraient fictifs et qui vont influencer les élections? 10 millions, ça fait beaucoup. Si c'était 1000, 5000, ça se comprendrait. Mais ici, il s'agit de 10 millions. C'est-à-dire que les 10 millions peuvent même influencer l'élection du président de la République. Ça serait extrêmement grave que nous puissions avoir un président de la République qui, dans les faits, n'a pas été élu. Ça signifie que là, en fait, nous ne pouvons que poser les problèmes. Après les élections, nous aurons des problèmes parce que la population va constater qu'effectivement, ce monsieur-là qui sort là, qui prétend être élu, c'est pas lui qu'on a élu. La population ne va pas se taire. Or, ce que nous voulons, c'est qu'après les élections, nous puissions réellement avoir un climat apaisé pour travailler pour l'économie de notre pays. Les pays autour de nous se développent. L'Éthiopie, dont on ne parlait pas il n'y a pas longtemps, se développe. Le Ghana est en train de partir. Un grand pays comme le nôtre, avec les richesses qui sont restées potentielles sous terre. Mais il faudra qu'un jour ces richesses puissent bénéficier au bonheur de la population. Et c'est ça que nous souhaitons. Alors, la personne qui est consciente de ce que je suis en train de dire, mais fera tout pour que nous puissions avoir un consensus national pour aller aux élections. C'est la préoccupation d'un patriote. C'est la préoccupation d'un Congolais qui veut réellement voir son pays avoir une autre image à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus la risée de tout le monde. Est-ce qu'il faut que cela continue dans un peuple où il y a des gens intelligents, il y a des travailleurs, dans un peuple où il y a des gens qui ont un esprit inventif, qui ne cherchent qu'à mettre tout cela à la disposition de leur pays, mais qu'on nous donne l'occasion de travailler pour notre pays pour une fois? C'est ce que nous recherchons.
La RDC va organiser seule ses élections, a dit le président Kabila. Pensez-vous que dans ce pays continent, on peut organiser les élections tout seul sans l'apport extérieur?
Si tel est le cas, puisque c'est le président de la République qui dit, lui qui a tous les contours de ce dont dispose le pays. Si tel est le cas, mais félicitations, allons-y. Mais nous disons attention, pour s'assurer que les élections aient lieu au mois de décembre 2018, nous pensons que l'apport de ceux avec qui nous sommes dans des organisations internationales, de ceux avec qui nous avons signé des accords, des chartes, nous pensons que leur apport, si cet apport est disponible, nous devrions nous ouvrir, puisque nous faisons partie de ces organisations. Nous sommes membres à part entière de ces organisations. Mais ouvrons-nous? Pourquoi nous allons nous fermer par rapport à ces organisations dont nous sommes membres? On se fermerait uniquement pour le problème des organisations? Et tout ce qu'il y a comme autre aide, on s'ouvrirait? Il me semble qu'il y a une chose qui ne va pas. Ce n'est pas très logique, à mon entendement. Je souhaite vraiment que le gouvernement, notre gouvernement, puisse réfléchir pour s'ouvrir afin que nous puissions avoir les moyens pour aller aux élections.
La communauté internationale est en train également de faire pression pour que l'accord de la Saint-Sylvestre soit respecté à la lettre. À ce jour, pensez-vous que cet accord est dépassé ou doit être revu?
Cet accord n'est pas dépassé. cet accord ne peut pas être considéré comme étant dépassé, tout simplement. Qu'est-ce que nous voulons dans cet accord? D'abord, un climat apaisé, encore une fois. Un climat apaisé et que tous ceux qui ont été arrêtés, qui sont dans des prisons, puissent sortir pour qu'ensemble nous puissions bâtir le pays. La première étape au cours de laquelle nous devons absolument nous entendre, c'est les élections. Il faut que tout le monde participe. Peut-être que moi, je ne vois pas d'autres problèmes qui sont cachés derrière cette espèce de réticence pour ne pas respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais moi, je suis persuadé que c'est pour le bien du pays. C'est pour le bien de notre pays. Il faut absolument que cet accord soit intégralement appliqué de manière à ce que nous allions aux élections d'une façon apaisée.
Jean-Philbert Mabaya Gizyamine, président du regroupement Arc-en-Ciel du Congo, vous êtes candidat à la présidentielle. L'espace politique n'est pas totalement démocratisé, il y a des médias qui sont encore fermés, des opposants enfermés dans les prisons, certains à l'extérieur. À combien de pourcents est appliqué cet accord selon vous? La majorité pense qu'il est bien appliqué.
Mon cher Alain, j'aimerais peut-être faire une petite diversion. À travers le monde, il y a des pays qui ont eu des problèmes plus graves que ceux que nous avons. Je ne citerai pas le cas de l'Allemagne, mais je citerai tout près de nous l'Éthiopie, qui était en conflit avec l'Érythrée. Il n'y a pas longtemps, celui qui vient d'être nommé comme premier ministre, mais en quelques mois, il a dégagé son pays pour que son pays puisse respirer et avoir des possibilités de se développer. Je pense que la volonté politique, je pense que l'engagement politique que nous devons avoir, c'est de voir constamment dans nos têtes le bien de notre pays pour qu'enfin nous puissions décoller. C'est pour répondre un peu à votre question. Le principal ici, c'est ce qu'on veut de notre pays. Qu'est-ce qu'on veut exactement pour notre pays? Lorsqu'on est patriote, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas transiger. Il faut regarder le bien commun, il faut regarder l'intérêt commun. Et à ce moment-là, il y a des décisions qui vont être des décisions faciles. Ça, c'est vraiment mon avis.
Jean-Philbert Mabaya Gizyamine, président du regroupement Arc-en-Ciel du Congo. Vous êtes candidat à la présidentielle. D'autres candidats ont déjà commencé à présenter leur programme. Quel est le vôtre? Qu'est-ce qui pousserait les millions de Congolais à jeter leur dévolu sur vous?
Ce programme, notre programme, est fin prêt. Nous allons le présenter probablement dans les tout prochains jours. Nous avons ce programme. Je sais que nous l'avons depuis longtemps, mais nous avons eu le temps de le fignoler, de surtout scruter la partie financière. Nous voulons un programme qui tient le cap, un programme que nous avons réalisé en ayant le pied sur terre, les réalités de notre pays, comment nous le commençons et comment nous le terminons de ce programme-là, comment nous le réalisons au début, comment nous le réalisons à la fin. Donc c'est un programme, vous allez voir, qui sera bien structuré parce qu'il est fait par des gens qui ont une certaine expérience de gestion et nous mettons tout cela à la disposition de notre population pour que finalement la misère, la pauvreté puisse être, je ne dirais pas éradiquée d'un seul coup, mais que de plus en plus que les gens sentent chez nous que les choses s'arrangent, que nous pouvons, comme à l'instar des autres pays qui se développent, nous dire également nous sommes sur de bons rails et nous pouvons partir de l'avant.
Oui, ce programme, il est à venir, on le saura en temps opportun, mais quelle est votre particularité pour les millions de Congolais qui sont en train de vous suivre? Qu'est-ce qu'ils devraient retenir de Jean-Philbert Mabaya?
Alors, puisque vous voulez les grandes lignes, ce programme met l'accent sur la refondation de l'État congolais. Nous devons réinstaurer dans notre pays l'État de droit. Et d'ailleurs, dès les premiers jours, ça va être une constante préoccupation. L'une des frustrations que nous vivons dans ce pays, c'est le non-respect de notre loi fondamentale. C'est le non-respect de nos lois. Et nous allons examiner comment faire en sorte que ces lois ne soient pas interprétées, mais qu'elles soient exécutées. Nous sommes parlementaires, nous avons, nous, une expérience de 10 ans au Parlement. Nous pensons qu'il y a moyen d'avoir un autre regard sur nos lois pour que les lois puissent être exécutées et pas interprétées comme on veut. Ça, c'est vraiment une disposition importante. Le droit de l'homme, c'est important. La bonne gouvernance, nous mettons l'accent sur cela. La démocratie, puisque c'est le système politique que nous avons choisi, il faut que ça soit une démocratie réelle. La liberté des citoyens, la liberté d'expression, nous allons mettre l'accent sur cela. Et enfin, ce que nous appelons, dans ce que vous voulez entendre, ce que nous appelons, nous, l'intégration nationale. L'intégration nationale englobe, en fait, tous les programmes pour que les citoyens congolais puissent se dire « Tiens, enfin, j'appartiens à un pays qui pense à moi. » Nous pensons également à rétablir ce que nous appelons, nous, la dignité de l'homme congolais. Il faut qu'on soit digne d'être congolais. Il faut que nous ayons la fierté d'être congolais. Comment va se manifester cette fierté? Au sein de cette intégration nationale, nous pensons aux infrastructures, de telle sorte que le Congolais qui est à l'est puisse venir à l'ouest et que nous puissions nous rencontrer. Nous pensons à améliorer notre système éducatif. Nous pensons à toutes les activités qui font qu'une nation doit vivre comme une nation. Sans oublier, bien sûr, et c'est peut-être le principal, la sécurité de notre pays. Ça, c'est le point primordial, la sécurité, la défense de notre pays et vivre dans les meilleures conditions avec tous ceux qui nous entourent, tous les pays qui nous sont frontaliers. Donc tout cela, ça fait l'objet de nos réflexions. Et je sais que dans notre pays, je ne cesserai de le dire, nous avons des gens intelligents, nous avons des gens travailleurs, avec un esprit d'ouverture extraordinaire, inventif, et nous arriverons.
Certains de vos détracteurs disent que vous êtes plutôt un candidat du FCC, ne sachant pas réellement qui est opposant, qui ne l'est pas, et que vous n'êtes là que pour brouiller les cartes de l'opposition.
Monsieur Alain, je suis dans l'opposition depuis que j'ai fait la politique. J'ai commencé la politique vers les années 2004, et mon parti politique s'appelle la Convention des démocrates chrétiens. Vous connaissez ceux qui font partie de cette organisation politique? J'ai évolué uniquement dans ce parti politique-là. Je n'ai jamais fait la transhumance. Je n'ai jamais été un membre de la transhumance. Je suis resté dans mon parti politique jusqu'au moment où j'ai été élu d'abord sénateur, ensuite député. Je sais que beaucoup de langues disent « Tiens, il est au bureau, comment ?» Mais je suis au bureau parce que, ayant fait mon programme au sénateur, ceux-ci m'ont fait confiance. Les qualités de gestionnaire que je leur représentais les ont mis en confiance et ils m'ont donné la gestion financière et la gestion administrative du Sénat. Et j'ai été élu. Je n'ai pas été désigné par quelqu'un. J'ai été élu par les sénateurs. Et depuis lors, toujours dans l'opposition, ceux qui me suivent plus ou moins au Sénat savent que je suis dans l'opposition. Les 107 sénateurs que nous avons, qui sont mes collègues, ils savent que je suis dans l'opposition et donc il ne doit pas y avoir d'équivoque. Et puis, je n'ai jamais été signé la charte de FCC. Ça, c'est vérifiable. Pour terminer, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, lorsque vous arrivez au Sénat, la première chose, c'est de déclarer si vous êtes membre de l'opposition ou membre de la majorité présidentielle. Et ces documents existent, on peut les consulter. Je n'ai jamais participé à la moindre petite réunion de la majorité présidentielle. Personne ne m'a vu jusqu'à présent. Il ne voudrait pas citer Kingankati, mais d'une façon générale, dans toutes ces réunions qui se tiennent au niveau de la majorité présidentielle. Donc là, ça doit être clair et net. Je suis bel et bien de l'opposition et nous travaillons pour le pays, même en étant de l'opposition.
Alors, l'avant-dernière question, Jean-Philbert Mabaya. Le président Kabila a présenté dernièrement un dauphin. Visiblement, cela a pris de court beaucoup d'opposants qui n'avaient pour programme qu'une transition sans Kabila.
Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, lorsque un responsable se comporte conformément à la loi, il n'y a pas d'événement. Le président de la République s'est comporté conformément à la loi. Je n'ai pas à faire de commentaires. J'entends des félicitations. Je dis, tiens, chaque fois que nous respecterons notre loi dans ce pays, il faudra qu'on nous félicite. On doit respecter la loi. Et là, pour une fois, bon, c'est très bien, la loi a été respectée et nous allons de l'avant pour le bien-être de notre pays.
L'émission se termine. Jean-Philbert Mabaya Gizi-Amin, président du regroupement Arc-en-Ciel du Congo. Vous êtes candidat à la présidentielle. Un mot à tous les millions de Congolais qui vous suivent à travers le pays et à l'étranger en guise de conclusion.
Alors, le mot que je voudrais adresser à tous les Congos, à tous mes compatriotes congolais, c'est leur dire d'abord, plusieurs d'entre eux me connaissent. Parce que d'abord, j'ai travaillé dans plusieurs provinces de notre pays. Je n'ai pas été passif dans les fonctions que j'ai occupées. J'ai même occupé des fonctions qui sont très visibles. On m'a vu dans le Katanga, par exemple. On m'a vu après la guerre de 80 jours, où j'ai été réparer le pont sur Muchacha Dilolo. Ça a été pour moi un événement inoubliable. J'ai été à l'ONATRA. Ils ont vu des petites réalisations que nous avons faites pour donner un signal que nous aimons le pays. Nous voulons que le pays change. Vous vous souviendrez du train bleu, vous vous souviendrez du train express. Toutes ces choses-là ont existé au moment où nous avons été là. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes au Sénat. J'ai donné ma parole d'honneur que je rendrai service aux sénateurs pour qu'ils puissent s'occuper de leur travail sans préoccupation de ce qui est matériel ou de ce qui concerne leur santé. Nous essayons de le faire franchement pour que les sénateurs qui sont là s'occupent plutôt de leur travail que d'autres préoccupations. Déjà, j'estime, rien que les sénateurs qui appartiennent à toutes les provinces de notre pays sont les meilleurs ambassadeurs pour moi, pour parler de moi. Donc, ne pas être connu, non. Puis j'ai été élu député, je suis député national. Le problème du Parlement qui concerne notre pays au niveau du Parlement, donc, ces problèmes-là nous concernent, nous faisons attention. Donc, sur le plan de la connaissance du pays, nous connaissons notre pays. J'ai fait des études, j'ai une qualification, j'ai une expérience et j'ai vécu sur un campus universitaire avec des gens de grande valeur que je connais, qui sont malheureusement, pas utilisés comme il se doit. Nous pourrons attirer également les autres. Je voudrais peut-être terminer par une chose, la dernière. Nous devons garder confiance en nous. La misère, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Nous devons absolument faire en sorte que nous sortions de l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la chance, nous, ma génération, parce que nous avons des repères, nous avons des références. Nous avons connu ce pays à l'époque où le pays était, je ne dis pas au top, mais le pays était envié par d'autres, notamment ceux qui venaient se faire soigner dans notre pays. Ces références, nous les avons et nous les mettrons à la disposition de notre pays.
Jean-Philbert Mabaya Guiziamine, merci d'avoir reçu grande interview chez vous.
Merci infiniment, M. Alain. Et à la radio Okapi, bien sûr.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Tina Salama, coordination Michel Kifindangoy, présentation Alain Irung Mouchinj. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro.